Portrait de femme de notre matrimoine, deuxième saison, deuxième série. Portrait de femme de tous les continents par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Aujourd'hui, c'est le deuxième portrait de cette nouvelle série. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour Odile. Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral. Alors aujourd'hui, nous faisons le portrait d'une jeune résistante allemande au nazisme dans son propre pays pendant la guerre de 1939-1945, Sophie Scholl, S-C-H-O-2-L, qui est née le 9 mai 1921 dans une famille aisée de religion luthérienne, la quatrième de 6 enfants. Son père, Robert Scholl, est le maire de la ville de Forchtenberg. Il est opposé au national-socialisme, c'est-à-dire aux nazis, comme toute la famille. Alors, au début du conflit, Sophie est enrôlée obligatoirement à 12 ans dans la Ligue des jeunes filles allemandes, qui est l'équivalent pour les filles des jeunesses hitlériennes pour les garçons. Après le bac en 1940, elle devient provisoirement institutrice en école maternelle, puis en 1942, elle s'inscrit comme étudiante en biologie et philosophie à l'université de Munich. Là, elle rencontre les amis de son frère Hans, qui, lui, étudie la médecine. Ils forment ensemble un groupe d'intellectuels cultivés, profondément humanistes, férus d'art, de littérature, de philosophie et de théologie. Sophie rencontre de nombreux artistes et philosophes avec lesquels elle discute de questions philosophiques comme par exemple comment les individus doivent agir sous une dictature. Horrifiée par la barbarie nazie, révoltée par l'attitude passive de la population qui en vient à accepter l'inacceptable, elle décide de passer à l'action. À partir de juin 1942, elle rejoint donc son frère Hans et ses amis dans le groupe de résistance étudiante qu'ils ont fondé et que Hans a dénommé « la Rose Blanche », « Die Weiße Rose » en allemand. Ce groupe est composé de 12 personnes, dont 4 femmes. Leur mode d'action est pacifique. Il s'agit d'éveiller la conscience du peuple par la diffusion la plus large possible de tracts explicatifs. Ces tracts, rédigés avec l'aide de leurs professeurs de philosophie, réfutent l'idée d'obéissance aveugle à la dictature hitlérienne. Sophie participe à la rédaction et à la diffusion de ces tracts. Il y en eut 6. Les 5e et 6e, rédigés par le professeur Kurt Huber, sont plus directement politiques. Le 5e notamment, intitulé « Appel à tous les Allemands », exhorte la population à réagir. « Prouvez par l'action que vous pensez autrement », dit-il. « Déchirez le manteau d'indifférence dont vous avez recouvert votre cœur. Décidez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Ou « Rien n'est plus indigne pour un peuple civilisé que de se laisser sans résistance régir par l'obscur bon plaisir d'une clique de despotes. » Ou encore « Il faut agir parce que, pour les générations qui vont suivre, on va subir ce fardeau moral d'avoir accepté ce régime. » Ce tract rejette l'idée impérialiste de puissance et prône une coopération généreuse entre les peuples européens. Il est distribué dans plusieurs grandes villes du sud de l'Allemagne et en Autriche. Le 6e tract parle de la défaite de Stalingrad devant l'armée russe qui a fait des millions de morts des deux côtés, comme on le sait. Et il annonce la fin du Troisième Reich hitlérien. Il est distribué dans Munich à 1200 exemplaires. Hans et Sophie Scholl décident de distribuer les tracts restants à l'université de Munich. C'est là que, repérés et dénoncés par le concierge, ils sont arrêtés par la Gestapo, la police d'État. Interrogés durement par l'inspecteur Mohr, M-O-H-R, pendant 3 jours, elle reconnaît qu'elle a lancé des tracts dans la cour de l'université. Elle explique qu'il ne faut pas prolonger la guerre. « Nous combattons avec le verbe, dit-elle, pour ouvrir les yeux de nos compatriotes. Nous ne voulons pas que pour l'éternité, les Allemands soient déconsidérés. » Je cite « Das Gesetz ändert sich. » Das Gewissen nicht, dit-elle encore. On traduit par la loi peut changer, pas la conscience. Hans étant accusé d'avoir entraîné sa sœur, elle rectifie, c'était ma décision, ce qui lui enlève toute possibilité d'une quelconque indulgence à son égard. Après un procès expéditif de 3 heures, elle, son frère et leur ami Christophe Props sont condamnés à mort pour trahison. On lui permet d'écrire ses adieux. Elle écrit « Freiheit, liberté ». Ils sont tous les 3 décapités par guillotine dans la prison le jour même, c'est-à-dire le 22 février 1943. Leurs parents qui se sont précipités pour les voir sont refoulés et n'ont pas pu les revoir. Leurs tombes sont à Munich, Friedhof. En tout, 16 membres du réseau, dont leur professeur, paient de leur vie leur résistance pacifique au nazisme. Le réseau est anéanti. Mais ils n'auront pas agi et ne seront pas morts en vain. Des millions d'exemplaires de leur 5e tract furent lâchés sur les villes allemandes par l'aviation alliée qui les bombardait. Les rescapés auront donc quand même pu les lire et faire vivre leurs idées. Alors, notre commentaire sur ces faits synthétiques. Pour nous, le fait qu'elle oppose sa conscience à la loi et qu'elle en meure fait de Sophie Scholl une moderne Antigone, l'héroïne tragique devenue symbole de résistance dans la pièce antique de Sophocle. Antigone y incarne la voix féminine intérieure qui souffre et combat, qui ose braver la loi des hommes, la loi masculine qui représente la raison d'État et les discours du pouvoir d'État. Condamnée à être enterrée vivante, elle se pend dans son tombeau. Au XIXe siècle, Friedrich Hölderlin, grand poète de l'époque classico-romantique allemande, traduit la pièce de Sophocle de façon littérale. En 1947, Bertolt Brecht utilise cette traduction. Il met en scène Antigone en la confrontant au contexte historique de l'après-guerre 1939-1945, c'est la période de la courte vie de Sophie Scholl. Ce que montre avec force Bertolt Brecht, c'est que le destin de l'être humain est le fait de l'être humain lui-même et non plus le jouet d'une fatalité inéluctable. Antigone forge son propre destin en choisissant d'être maîtresse de sa propre mort. En conclusion, disons que c'est exactement ainsi que nous apparaît Sophie Scholl, jeune fille de conviction, engagée politiquement dans un contexte très dangereux, au comportement héroïque et clairvoyant, une Antigone moderne dont nous devons conserver précieusement la mémoire. Alors je cite mes sources, le film Sophie Scholl, Les derniers jours, de Mark Rothenmund, 2005, un film bouleversant qu'on peut encore voir, des extraits des 6 tracts, Die Weiße Rose de Harald Steffan, 1993, et puis les contributions de 2 personnes chères, ma fille Catherine et mon amie Marie, toutes les 2 professeurs d'allemand et grandes connaisseuses de l'histoire véritable de l'Allemagne et de la culture germanique. Alors, beaucoup d'hommages sont rendus à Hans et Sophie Scholl en Allemagne, mais pas seulement. À Munich, la place de l'Université de Munich et un mémorial au nom de la Rose Blanche. En ex-RDA, de nombreuses rues et structures sont nommées en hommage à la Rose Blanche. À Paris, un collège du 17e arrondissement et un jardin portent le nom de Hans et Sophie Scholl. Et à Strasbourg, le pont situé entre le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme est nommé le pont de la Rose Blanche. Une plaque en français et en allemand rappelle les exécutions de février 1943 et chaque 22 février, 3 roses blanches orne cette plaque.
La Rose Blanche, c'était le nom du réseau. Vous avez des explications sur...
Alors, on a une explication au conditionnel. Ce nom aurait été choisi par Hans Scholl en référence à l'ouvrage de Clémence Brentano, La romance du rosaire. Clémence Brentano est un poète et romancier allemand du XVIIIe siècle. Voilà.
Merci beaucoup, Jacqueline, et à la semaine prochaine.
Merci à vous, à la semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir.